midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon week-end à tous. Mon invité aujourd'hui s'appelle Raphaël Branche. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes spécialiste des violences en situation coloniale. Et vous êtes autrice de Papa, qu'as-tu fait en Algérie, aux éditions La Découverte, sous-titré Enquête sur un silence familial, un titre en forme de question. Qui c'est qui pose la question ?
Les enfants des anciens appelés en Algérie. Voilà, qui se posent la question, en fait, avant peut-être parfois d'arriver à la poser.
Alors, ceux qui ont été appelés en Algérie, ça fait combien de conscrits, comme on disait à l'époque ?
Ouais, on appelait les conscrits ceux qui étaient soumis à la conscription, c'est-à-dire à l'obligation de donner des années de leur vie à la nation sous forme de soldats, enfin en étant soldats. Et donc, c'est 1 500 000 hommes à peu près. Donc, autant de familles touchées, sans doute.
Alors, vous resituez le contexte, hein, ces enfants qui partent faire leur service national en Algérie sont des enfants de guerres, hein, ce qu'on a complètement oublié d'ailleurs. Hein. La Première Guerre mondiale, et leur père, puisque eux, ils sont nés autour de 35, on va dire, à peu près. Hein,
ils sont nés entre 36 et 40, pour la majorité d'entre eux. Hein. Donc en fait, ils sont tous marqués par la mémoire très prégnante et très incarnée, en fait, dans des corps autour d'eux, la mémoire de la Première Guerre mondiale. Leurs oncles, leurs pères, leurs grands-pères, ça dépend, parfois, ont pu être blessés ou tués, ou en tout cas anciens poilus. Et puis, bien sûr, ils vont connaître, enfants, tout jeune enfant, l'occupation. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je crois.
Ils l'ont vécu, la
Deuxième Guerre mondiale, sa dimension militaire, pas toujours. Leurs pères ont pu la faire, hein, ceci dit. Quand même, il y a quand même 1 800 000 hommes faits prisonniers, donc beaucoup ont des enfants. Et donc, certains font ensuite l'Algérie. Et puis, tout simplement, la période de l'occupation, ça a du sens, parce qu'en fait, quand ils vont débarquer en Algérie pour faire la guerre, un certain nombre d'entre eux vont trouver des points communs, en fait, entre ce qu'ils observent dans les relations de l'armée française aux populations civiles algériennes et ce qu'ils avaient vécu, eux, enfants, quand ils ont vu les Allemands arriver.
D'ailleurs, il faut préciser que quand ils arrivent en Algérie, ils n'en connaissent pour la plupart rien du tout.
Ils n'en connaissent rien, en réalité, puisque les Français de cette époque ne voyagent pas, ou très très peu. Bien souvent, ils ne connaissent pas au-delà de leur département, déjà, donc ne serait-ce que juste la France, ils la connaissent très mal, la France métropolitaine. Donc bien sûr, l'Algérie, ils n'en ont qu'une idée vague, transmise éventuellement par quelques représentations, quelques affiches, c'est tout.
Et ils trouvent ça beau.
Oui, ils trouvent ça beau, ça ils le disent tous.
D'ailleurs, pour la plupart, ils trouvent ça beau. Ouais. Ceux qui arrivent par bateau dans la baie d'Alger découvrent cette baie magnifique et cette ville incroyable. Mais aussi quand ils vont dans les campagnes. Enfin,
ils trouvent ça beau, ils trouvent ça sublime même parfois. Il faut imaginer ce que ça peut vouloir dire la Méditerranée pour quelqu'un des Ardennes, hein, par exemple. Donc c'est le soleil, la lumière, la mer, enfin bon, bref, plein de choses, hein, qui vont signifier l'Algérie. Le territoire algérien, le bled plus profond, les surprend aussi. Éventuellement, l'image qu'ils ont de l'Algérie, c'est parfois le désert, le Sahara. Donc c'est pas du tout ça, hein, qu'ils découvrent en Algérie. Et puis, ils découvrent les Algériens aussi. Ils découvrent la société coloniale. Ils découvrent qu'une fois passée la façade et la vitrine d'Alger ou d'Oran, la vie qui est derrière n'a pas grand-chose à voir avec la France, pas grand-chose à voir avec ce qu'on leur a dit de la mission civilisatrice. Et c'est le choc pour beaucoup d'entre eux. Donc, il y a un mélange entre l'exotisme, l'orientalisme, tout ça, dont ils sont, et puis, bien sûr, la misère. Ouais.
Alors, en 54, hein, quand démarre la guerre d'Algérie, un tiers des adolescents quittent le système scolaire à 14 ans. Hein, ce n'est que pendant cette période de la guerre d'Algérie que l'école devient obligatoire jusqu'à 16 ans.
Ouais.
Et il faut dire que finalement, beaucoup de ceux qui vont partir en Algérie travaillaient déjà quand ils sont appelés à aller servir la France sous les drapeaux.
Oui, en fait, il y a plein de paradoxes et des choses qui sont compliquées à comprendre aujourd'hui, je pense, parce que en fait, ils partent à 20 ans. C'est ça l'obligation légale, hein, c'est de partir à 20 ans. On peut devancer l'appel, on peut partir avant, à 17, à 18, mais en fait, ils partent tous à peu près à 20. à un âge où donc ils ont le droit d'être tués pour la France, mais ils n'ont pas le droit de voter, par exemple. On a le droit de voter à 21 ans seulement à l'époque. Donc
c'est sous Giscard, hein, il va falloir attendre 74 absolument. Pour que le droit de vote soit 18 ans.
Absolument. Donc il y a un vrai décalage entre ce qu'on exige, les droits et les devoirs, en fait. Et puis socialement, bien sûr, ils sont pour la plupart déjà engagés dans un projet professionnel, mais souvent en habitant toujours chez leurs parents. Parce que c'est aussi ces années-là, c'est les années, il ne faut pas l'oublier, de l'après-Deuxième Guerre mondiale. On n'est même pas 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui s'est traduite par de nombreuses destructions en France. Et donc, il y a une pénurie de logements énorme, en fait, au début des années 50 en France encore. Et donc, beaucoup sont juste chez leurs parents, effectivement, en ramenant de l'argent à la maison. Et le vrai projet de départ, l'installation, etc., il faut attendre le service militaire pour qu'ils puissent le faire. Donc ils attendent la fin aussi pour ça, pour enfin faire une vraie vie, même si effectivement, ils ont souvent déjà commencé à travailler, oui.
Alors Raphaël Branche, moi j'aime bien parce que vous restituez le contexte de l'époque. Parce qu'on a vraiment, oublié hein, l'époque, avant de partir à l'armée, il fallait passer devant ce qu'on appelait le conseil de révision.
Ouais. C'est fou, ouais. Enfin, c'est fou. C'est vrai qu'on a oublié, c'était cette espèce de passage obligé qui ont été très, très importants dans la société française.
Qui vous déclarait bon pour le service ou pas bon pour le service.
Apte, et puis avec cette dimension que quand on n'est pas bon pour le service, ça veut dire en gros, on n'était pas bon pourquoi ? Parce qu'on était trop myope, qu'on avait un pied boiteux ou voilà. Donc des déformations, des problèmes physiques hein, ou psychiques. Mmh. Et le problème, c'est qu'il y a un marché matrimonial indexé sur ce conseil de révision. Donc pas bon pour le service.
Mais
ça risquait de pouvoir dire pas bon pour les filles, hein, comme on disait au début du XXe siècle encore, avec des épingles, des broches où il y avait écrit bon pour le service, bon pour les filles. Donc oui, c'est un passage obligé de la société française de ces années-là qui a complètement, évidemment, disparu des radars aujourd'hui.
Et d'ailleurs, à cette époque, hein, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le service militaire est une institution qui n'est pas encore contestée. Hein. Et à l'époque, il n'y a pas encore ce droit qu'on connaîtra plus tard, celui de l'objection de conscience. Ça n'existe pas encore.
Ça n'existe pas comme un droit, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne souhaitent pas porter les armes, il y a des hommes qui ne souhaitent pas être mis en situation de tuer, il y a des hommes qui ne souhaitent pas partir en Algérie. Donc il y a plusieurs motivations parfois qui ont pu s'exprimer hein, pendant la guerre d'Algérie chez certains jeunes conscrits. Mais ce n'est pas un droit. Donc en fait, ils l'expriment, ils sont des délinquants, en fait. Donc ils vont en prison. Voilà. Donc la marge de manœuvre aujourd'hui, je trouve c'est important de le dire parce que je sais que certains anciens combattants ont été choqués en fait des questions qu'ont pu leur poser leurs petits enfants autour d'eux. Mais pourquoi tu n'as pas dit non alors que tu n'étais pas d'accord ?
Pourquoi tu y allais finalement ?
Voilà, c'est quand même pas si simple. Ceux qui l'ont fait sont très très rares et ils se sont exposés à des durées de prison de plusieurs années. Donc voilà.
Même les plus politisés d'entre eux. Hein.
Les plus politisés membres d'entre eux
sont partis,
quelques communistes au départ ne partent pas, puis très rapidement le parti leur explique qu'il faut partir et ils partent.
Il faut rappeler aussi qu'à l'époque le service est 18 mois et ça va changer. Hein, la durée change pendant la durée de la guerre d'Algérie.
Oui, la durée change. Alors, sauf que je peux même pas dire jusqu'où
c'est passé
elle va,
de 18 jusqu'à 24 mois, puis 3 ans, puisqu'on voit que certains de ceux que vous avez interrogés. Ils noircissent trois calendriers.
Oui, non, quand je dis que je ne sais pas, c'est-à-dire que, bien sûr qu'on peut savoir, mais en fait, ça varie tous les 3 mois quasiment. Et en plus, il y a des variations en fonction du grade, puisque l'armée française a une pénurie d'encadrement terrible. Donc, en fait, elle maintient encore plus longtemps les sous-officiers, par exemple. Et puis, il y a des petits arrangements, il y a des petits bonus, 15 jours de moins quand on est marié. Donc, globalement, il y a une augmentation et ça peut aller jusqu'à 32 mois hein, pour certains en Algérie. Donc, c'est les fameux 3 ans dont vous parlez. Donc, c'est 2 ans et demi, mais c'est absolument énorme. Alors qu'ils partent pour 18 mois au départ, effectivement. Et donc, je travaille sur ça parce qu'en fait, puisque je travaille sur leur rapport à leur famille, ils ne peuvent pas faire de projet, en fait. Personne ne peut faire de projet. Eux, ils ne peuvent pas en faire personnellement, mais les gens avec qui ils sont investis dans des relations ne peuvent pas savoir s'ils seront rentrés pour les moissons ou s'ils seront rentrés plutôt en hiver, s'ils seront rentrés pour prendre le boulot qu'on leur a gardé, mais on ne va pas le garder non plus 6 mois de plus. Voilà. Et donc, en fait, ils sont une espèce de temps suspendu, comme ça, où par ailleurs, souvent en Algérie, ils s'ennuient. Donc, il y a un décalage entre... C'est une double violence en réalité, entre le temps qui ne s'écoule pas exactement et un temps qui a l'air de s'étirer au gré des besoins d'hommes de l'armée française.
Alors, ça va peut-être être bête de dire ça, mais alors à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable. Hein. C'est-à-dire que quand... Quand on est loin de sa famille et qu'on veut des nouvelles, eh ben on écrit des lettres.
Ouais, non seulement il n'y a pas de téléphone portable, mais il n'y a pas de téléphone tout court, en fait. Donc, il y a très peu de foyers qui ont le téléphone en France. Et puis, il n'y a pas de téléphone en Algérie, là où les soldats sont stationnés, c'est-à-dire à la campagne. Donc, ouais. Donc, la seule manière de communiquer, c'est les lettres. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle pour les historiens et les historiennes, c'est que les lettres, c'est des traces. Mmh. Ensuite, alors que les coups de téléphone, ça nous aurait échappé. Là, avec grâce au fait que la technologie n'était pas si avancée, on peut travailler sur leur correspondance et c'est ce que j'ai fait.
D'accord, vous avez travaillé sur leur correspondance. Ouais. Pour ceux qui n'avaient pas et qui n'ont pas détruit leurs journaux intimes, qui les ont pas brûlés au retour d'Algérie, vous avez exploité certains journaux intimes aussi,
oui.
D'ailleurs.
Hein. Oui, bien sûr.
Des photos.
Oui. Les photos, c'est de manière assez classique. Il y a beaucoup de photos d'anciens d'Algérie qui se prenaient en groupe, en fait, et qui donc se reproduisaient les photos pour chacun des membres du groupe. Les photos sont des façades, hein, bien souvent, qui cachent une réalité. On a quand même plus accès à la réalité en ayant les journaux intimes. Mais ce qui m'a surtout intéressée, c'est d'essayer, quand je pouvais, de comparer ce qu'ils se disaient eux-mêmes dans leur journal, ce qu'ils écrivaient à leurs proches, éventuellement les photos qu'ils prenaient, pour essayer de voir comment, justement, en fonction de la personne à qui on s'adresse, eh ben, en fait, on raconte pas forcément la même chose dans les mêmes termes.
Voilà, c'est ce que vous expliquez, ouais. C'est que finalement, on dit pas la même chose quand on écrit à ses parents, à sa femme ou à son frère aîné.
C'est ça. C'est aussi bête que ça, en fait. Simplement, j'essaye de l'expliquer en historienne, c'est-à-dire qu'en plus, être un frère aîné dans les années 50, c'est pas comme être un frère aîné aujourd'hui. Être un frère aîné dans un milieu populaire, c'est pas comme exactement être un frère aîné dans un milieu bourgeois. Et être un père ou être un enfant dans les années 50, c'est vraiment pas comme être un enfant ou un père aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette dimension historique de la relation familiale que j'essaye d'explorer, d'expliciter grâce et avec cette question des récits de l'Algérie qui se mélangent et qui se tissent au sein de ces familles.
Voilà. Alors ce que vous pointez du doigt, c'est qu'à l'époque, alors évidemment, il n'y a pas de guerre d'Algérie, hein, mais au sein d'une même famille, deux frères ne peuvent pas partir en Algérie en même temps. Ça, c'est intéressant.
Oui, mais ça fait partie des nombreuses, je ne sais pas si on peut dire ambiguïté ou... Enfin bon, paradoxe, voilà, de la situation. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre en Algérie, mais on peut y mourir pour la France. C'est pas une guerre en Algérie, mais on interdit, enfin on rend impossible à un deuxième frère d'aller en Algérie si le premier y est déjà. Si le premier rentre, le deuxième peut partir. C'est pas une guerre en Algérie, mais il y a des bonus, des gratifications d'exposition au danger au début. Donc il y a un certain nombre de points qui montrent bien que l'État savait évidemment le danger auquel étaient exposés les conscrits, même si officiellement il n'y a pas de reconnaissance de guerre. Et ça aussi, ça a des conséquences, bien sûr, sur les...
Alors on disait quoi en 54, là, pour tous ceux qui partent pour la première fois, on leur dit quoi? Vous allez participer à quoi?
En fait, ils partent au régiment. Ils partent pas en Algérie d'abord. Bien souvent, ils partent juste faire leur classe, leur instruction en Allemagne, à, je sais pas quoi, Maison Lafitte, enfin voilà. Et puis après, ils vont partir donc en Algérie. Donc soit ils vont faire du maintien de l'ordre.
Donc c'est ça qu'on disait.
La pacification, le maintien de l'ordre. Ouais. Voilà, c'est ce type d'expression qui, des opérations de police. Voilà, c'est ce type d'expression qui est dans la presse de l'époque pour les premières années. Sans plus de clarté, sans que ce soit très net ce que ça veut dire, et jusqu'à ce que les premiers soldats reviennent, c'est-à-dire jusque fin 56, en fait, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Ce maintien de l'ordre, cette pacification, il y a des éléments, hein, il y a des événements dans la presse, il y a de l'actualité, mais assez rapidement, il va y avoir un contrôle aussi de l'information.
Raphaël Branche est mon invité aujourd'hui. Je rappelle que vous publiez Papa, qu'as-tu fait en Algérie? C'est aux éditions La Découverte et c'est sous-titré Enquête sur un silence familial.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Papa, qu'as-tu fait en Algérie? Un titre en forme de question, hein, c'est le titre du livre de mon invité aujourd'hui, qui est Raphaël Branche, historienne, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris-Nanterre et spécialiste des violences en situation coloniale. C'est aux éditions La Découverte, sous-titré Enquête sur un silence familial. C'est une enquête que vous avez menée, c'est un projet quand même de longue haleine chez vous. D'années parce qu'on retrouve même un personnage qu'on avait croisé dans un de vos livres d'il y a 20 ans, qui s'appelle Antonin.
Non, en fait, j'ai commencé à travailler sur la guerre d'Algérie il y a 25 ans, je pense. Et mes travaux de thèse m'ont amenée à rencontrer des anciens d'Algérie. J'ai travaillé sur les violences illégales de l'armée en Algérie, les tortures, les exécutions sommaires. Et donc j'ai commencé à travailler avec ces anciens d'Algérie à ce moment-là. Et effectivement, là, pour cette dernière enquête, j'ai puisé dans des choses que j'avais déjà vues à ce moment-là. Mais l'enquête elle-même, de manière obsessionnelle et monomaniaque, elle dure 5 ans à peu près.
Voilà, sous forme de questionnaire. Ouais. Donc vous sélectionnez un certain nombre de familles, parce que c'est une enquête familiale que vous faites. Hein. Pourquoi est-ce que vous interrogez la famille, et en quoi cette construction familiale du silence est pour vous importante?
Alors le silence dont on parle, le silence dont parle le titre, c'est le silence que les gens m'ont raconté. C'est-à-dire que moi j'ai été souvent saisie dans des discussions comme ça, anodines, hein, de café, avec des gens qui avaient eu un proche qui avait fait l'Algérie, avec cette phrase, j'étais saisie par cette phrase qui était « il n'en a jamais parlé ». Il n'en a jamais parlé, il n'en a jamais parlé, je l'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois. Et donc à un moment je me suis dit, c'est quoi ce « il n'en a jamais parlé », est-ce qu'on peut en faire l'histoire? Et donc c'est ce silence-là hein, qui m'intéressait. Jusqu'à ce que je me dise que plutôt que de ramener le silence à l'expérience, il fallait que je ramène le silence à la situation de communication. Parce que on m'a commencé à me dire, il n'en a jamais parlé, depuis que je travaille sur l'Algérie. Et depuis que je travaille sur l'Algérie, je parle avec des anciens combattants qui me racontent beaucoup de choses, en fait. Donc je savais que ce « ils n'en ont jamais parlé » n'est pas forcément lié à ce qu'ils ont vécu, parce que, en fait, à moi, ils racontaient. Donc, voilà, il a fallu que je dénoue un peu tout ça et que je me dise que finalement, pour comprendre ce qu'on pouvait raconter, ce qu'on pouvait entendre, il fallait peut-être qu'on revienne aux premiers mots, aux premiers éléments d'intellection qu'on avait proposé, de compréhension qu'on avait proposé, et donc à la famille. Et donc c'est devenu une histoire des familles françaises, en fait, et non pas une histoire des anciens combattants, une histoire des familles françaises, de leurs relations au passé algérien de leurs proches. Parce que beaucoup de familles n'ont pas envie de savoir, n'ont pas voulu savoir, ne se sont pas intéressées à ce sujet. Et c'est aussi important de comprendre ça que de comprendre ce qui s'est passé en Algérie pour les anciens soldats, je crois.
Oui, alors c'est intéressant parce que vous vous intéressez aux différents temps de cette guerre. Hein. Il y a, quand ils sont sur place, avec les lettres qui s'envoient, dans ce qui se dit et de ce qui ne se dit pas dans les lettres, de ce qu'on peut comprendre à demi-mot aussi, hein, avec un peu de recul. Il n'y avait pas de permission, parce que ça, il faut comprendre que c'est pas du tout la même chose quand on peut rentrer chez soi tous les 3 mois ou tous les mois, alors que là, les gens, ils partaient pour plus d'un an.
Oui, mais pour revenir sur ce que vous dites sur les demi-mots, etc., c'est pour ça que j'ai insisté sur l'enfance. C'est-à-dire que je crois qu'il fallait... Mon projet, c'était d'essayer de comprendre quels étaient les mots à leur disposition, en fait, pour parler. Parce que le silence, c'est une histoire de mots hein, qui ne sont pas prononcés ou qui ne sont justement pas complètement dits. Donc, revenir sur les mots qu'ils partagent finalement avec leurs proches. Et je pense à un cas du fils d'un homme qui a vécu la Première Guerre mondiale dans la Somme et qui se trouve obligé de brûler des moissons. Et finalement, voilà, pour l'horreur de la guerre, c'est de brûler les moissons d'un paysan. Ça parle à son père. Il n'y a pas besoin forcément d'expliquer davantage ce qu'on fait et à quel point on est choqué par ce qu'on fait quand on s'adresse de paysan à paysan dans un contexte familial qui a été marqué par les destructions de la guerre. Donc j'avais besoin de comprendre tout ça pour comprendre aussi parfois il n'y a pas besoin de dire beaucoup de mots, en fait. Et donc, au fur et à mesure de la transmission dans la famille, parfois il suffit de très très peu de choses pour que les évocations soient là. Mais que quelqu'un d'un petit peu plus extérieur ne les perçoive pas, et donc il y a l'impression qu'on n'en parle pas, qu'on n'en dit rien. Et donc les permissions, pour revenir à votre question, les permissions, elles auraient permis, si elles avaient eu lieu de manière plus régulière, un peu comme le téléphone, elles auraient permis peut-être d'autres commentaires. Là, en fait, il n'y en a pas. Donc de fait,
alors
ça donne un peu plus d'importance
à la correspondance. Qu'est-ce que tu vis, machin.
Il n'y a pas tout ça du tout. Les permissions, quand il y en a, elles sont en général au bout d'un an. Et donc, il faut quand même imaginer, on ne peut pas faire un résumé d'un an de vie en une permission de quelques jours. Donc il a fallu que les lettres soient suffisamment nourries, ou alors on n'en parle pas. On ne revient pas sur des événements passés. Et si on n'en parle pas au moment de la permission, si on n'en parle pas au retour, on n'en parle vraisemblablement plus ensuite. Oui, effectivement, on se projette vers la fin de tout ça, que tout le monde attend.
Mais est-ce que les gens ont posé les questions? C'est ça aussi. Est-ce que les proches se sont intéressés à ce qui s'était passé et ont voulu en savoir plus ou pas?
Je ne peux pas généraliser, mais oui, il y a des proches que ça intéresse, il n'y a aucun doute, il y a des proches que ça intéresse, mais il y a des proches qui n'ont pas forcément les moyens de comprendre ce qui se passe, qui n'ont pas forcément l'idée d'aller plus loin que ce que l'appelé tente de dire au départ. Donc
Oui, oui, je crois que les relations dans les familles, elles sont ce qu'elles sont. Il y en a où on parle, il y en a où on parle pas, il y en a où on s'interroge sur l'intime, d'autres pas. On peut écrire l'histoire de ça, et c'est ce que je disais sur les relations père-fils, par exemple. Voilà, un père et un fils ne parlent pas d'un certain nombre de choses, mais par exemple, ils peuvent parler politique. Donc, par la question politique, on peut aussi raconter l'expérience algérienne. Mais ils parleront sans doute pas de l'intimité, d'un certain nombre de choses. Ça ne se fait pas. Mmh. Et puis ça évolue avec le temps. Donc c'est pas simplement parfois ils n'ont pas eu le sentiment d'être écoutés, ça c'est sûr. Et ils n'ont pas eu le sentiment qu'on s'intéressait à leur histoire, soit au moment du retour, soit même plus tard. Il y a des moments où j'essaie d'identifier des moments dans la vie de ces hommes qui appartiennent à une même génération. Donc il y a des moments un peu récurrents, et notamment le départ à la retraite, ça peut être un moment où ils ont envie d'en parler.
Alors vous expliquez pourquoi, parce que aussi c'est un moment où on doit s'occuper des papiers.
Oui, c'est ça. Enfin, il y a un retour, puisque la retraite professionnelle, ça dépend d'un âge variable, mais la retraite d'anciens combattants, c'est 65 ans. Donc effectivement, à ce moment-là, ils ont le droit de toucher quelques centaines d'euros de l'État par an, et cette possibilité peut donner lieu pour certains à un regard rétrospectif vers leur 20 ans. Oui.
Donc à ce moment-là, il faut faire les papiers, et puis finalement, il y a toutes ces questions de
éventuellement, ouais. Puis après, certains ne le font pas. Hein. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui, à 80 ans, n'ont toujours pas demandé leur papier d'ancien combattant.
Raphaël Branche, vous avez donc élaboré votre enquête sous forme de questionnaire. Vous posez des questions. Une des questions que vous posez, c'est par exemple aux descendants ou aux proches, quel regard portez-vous sur ce qu'il a fait en Algérie?
Oui, parce que j'essaye de comprendre les représentations qu'on a quand on interroge quelqu'un. Voilà, quand je et que ces représentations, elles sont prises dans le temps aussi. Pour le dire autrement, il s'agit d'interroger des gens qui sont membres de la société française, qui sont des familles françaises, qui sont dans la société française. Cette société française, elle est travaillée par des imaginaires collectifs forts. Véhiculé notamment par l'école, mais aussi par les médias, par la culture populaire, etc. Donc, et aussi par l'actualité, tout simplement. Et donc j'essaye de comprendre comment ces représentations, par exemple, c'est quoi une guerre ou c'est quoi un attentat. Aujourd'hui, les gens répondraient quelque chose, ils auraient répondu certainement autre chose il y a 20 ans. Les mêmes personnes, hein, parce que notre actualité est pleine de ces mots avec des sens qui ont évolué. Donc j'avais vraiment besoin de comprendre avec quels imaginaires ils sont allés questionner leurs proches, ou d'ailleurs, c'est ce que je disais au début de l'émission, parfois ils se posent la question, mais ils ne la posent pas. Ils ne la posent pas parce qu'elle est trop compliquée à poser.
Et l'Algérie, ce n'était pas une guerre. Il va falloir attendre 1999 pour que les événements d'Algérie aient le statut de guerre.
La reconnaissance officielle par l'État du mot guerre, effectivement, c'est 1999. Je crois que c'est très important, en fait. Je pense que ça débloque la parole. Ça débloque la parole des anciens combattants auprès de leurs proches, parce que ça légitime, finalement, un ressenti. Pour ceux qui ont eu le sentiment d'avoir vécu quelque chose de l'ordre de la guerre en Algérie, c'est pas le cas de tous, mais quand même une grande partie d'entre eux. Et donc, effectivement, ça a été important, ce moment de 99, 2000. Pour moi, c'est une bascule dans le rapport de la société française à cette période historique, et ça se retraduit aussi dans les familles, oui.
Dans les documents que vous consultez, auxquels vous avez accès, comme les lettres et les journaux intimes, ces appelés du contingent, est-ce qu'ils racontent la torture, les combats, les embuscades, les...
Alors, oui, et contrairement à ce qu'on peut imaginer... Puisque ce n'est pas une guerre, il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure officielle. Donc en fait, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent.
Il n'y a pas eu de censure.
Ce n'est pas possible de mettre en place une censure.
Il n'y a pas le fameux deuxième bureau qui était chargé de censurer. C'est une légende ?
Non, il y a un deuxième bureau, bien sûr, mais il n'est pas chargé de la censure, en fait. Il n'y a pas de raison de censurer des hommes qui font leur service militaire. En démocratie, voilà, il n'y a pas de raison. Donc il y a certains militants politiques qui sont surveillés, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, les hommes, quand je leur demande maintenant, en tout cas, ils ne craignaient pas la censure, et de fait, voilà, ils n'en avaient pas. En revanche, il y a de l'autocensure très forte, bien sûr, parce qu'il ne faut pas inquiéter les proches. Donc ça, c'est absolument fondamental. Mais en dépit de tout ça, et de ce désir fondamental que tous partagent de protéger les proches, il y a aussi parfois ce désir d'informer, de raconter, d'être honnête. Et notamment, ça fait partie des contrats de couple, de jeunes couples, parce qu'ils ont 20 ans, encore une fois. Leurs couples vont être très marqués, leur jeune couple, encore une fois, 2 ans dans la vie d'un jeune couple, c'est absolument colossal. Et donc, ils se forment dans l'absence, en fait, ces couples. Et donc, dans ces contrats de départ qui peuvent être, tu me diras tout, tu ne me cacheras rien. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être fait, hein, mais ça peut justifier l'autorisation qu'on se donne en tant que jeune homme de raconter ses émotions, de raconter ses peurs et de raconter ce qui les a choqués. Donc, il y a des lettres, notamment aux jeunes femmes, qui racontent ça. Il y a aussi des lettres aux pères. Les pères avec qui on a une discussion, comme je le disais, de nature plus politique pour certains. Ceci dit, c'est pas la grande majorité des cas. Hein. Ça, c'est sûr que la grande majorité des récits, c'est plutôt de cacher tout ça. Donc, justement, en travaillant sur des différents types de récits, y compris ceux qui m'ont tenu ensuite, hein, bien après, je reviens pour certains sur des événements très précis et je vois comment ils ont caché. Ils ont réussi à dire et à cacher en même temps. C'est quand même ça qui est fantastique. Ils disent je reviens d'une opération très dure, 3 jours j'ai pas pu t'écrire, je suis désolée, j'ai pas beaucoup dormi, voilà. Et puis en fait, on apprend que c'est une opération. On apprend par exemple parce qu'ils y ont été décorés et qu'on a le texte de la citation, que c'est une opération où il y a eu 3 morts dans leur unité et où eux-mêmes se sont bien comportés. Donc c'est, voilà.
Et après, vous expliquez que finalement, c'est compliqué de dire qu'on a été décoré, parce que si on dit qu'on a été décoré, derrière, il y a la question, mais pourquoi est-ce que tu as été décoré? Qu'est-ce que tu as fait qui t'a fait mériter cette décoration?
C'est ça, et comme la décoration est liée en général à la mort, c'est-à-dire à la... avoir évité la mort de ses camarades ou avoir risqué sa mort, globalement, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas voir.
Raphaël Branche est notre invité. Aujourd'hui, on parle de la guerre d'Algérie au cours de la sortie de votre nouveau livre. Papa, qu'as-tu fait en Algérie, aux éditions La Découverte, enquête sur un silence familial.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Papa, qu'as-tu fait en Algérie? C'est le titre de mon invité aujourd'hui, Raphaël Branche, aux éditions La Découverte. On parle d'un silence, celui qui a entouré le retour des appelés en Algérie, hein, pour faire leur service militaire. Visiblement, ce qu'il ressort, c'est qu'ils ont peu parlé, même si certains ont parlé quand même, ils n'ont pas tous gardé le secret. Mais comment est-ce qu'on organise ce silence, on va dire, collectif? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait ne pas avoir envie de parler d'un événement?
Quelle question.
C'est quoi? C'est la honte, général, par exemple. C'est quand on décide de pas parler de quelque chose, c'est qu'il y a une raison.
Je vais essayer de répondre, mais je pense qu'il y a des dimensions qui sont un peu généralisables, un peu dans le sens de votre question, c'est-à-dire il y aurait quelque chose dans les événements qu'on vit qui provoque le désir de ne pas en parler. Parce que la honte, parce que la culpabilité, parce que le sentiment d'avoir failli à une certaine idée de soi, une certaine valeur qu'on pensait pouvoir défendre à tout prix, etc. Donc ça peut se retrouver dans de multiples circonstances qui n'ont rien à voir avec une guerre, hein, qui peuvent expliquer qu'il y a des choses dont on n'est pas très fier, en fait, et dont on n'a pas envie de parler. Pour ce qui concerne la guerre d'Algérie, les choses sont tellement collectives, ne concernent tellement pas seulement des individus dans leur relation avec eux-mêmes, mais ont à voir avec d'autres facteurs explicatifs, et c'est là où on peut faire de l'histoire et non pas de la psychologie. On peut essayer de dire que effectivement il y a dans la manière dont la société française s'est emparée ou a désiré ne pas voir, ou dont les politiques publiques aussi ont fait en sorte de détourner les yeux, quelque chose qui peut contribuer à expliquer les spécificités de ce silence. Et puis il y a aussi quand même la nature de la guerre, il faut pas oublier, je suis pas en train de dire que rien n'a à voir avec ce qui s'est concrètement passé en Algérie. Il s'est concrètement passé des choses en Algérie dont un certain nombre de Français peuvent ne pas être fiers. Mais il y a d'autres explications à ce silence.
Vous avez une expression, vous dites, et vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, que cette histoire, elle est encryptée.
Ah, j'ai dit ça. Encrypté, en fait, c'est un mot un peu technique qui vient justement des psychologues.
Vous l'avez écrit, en tout cas.
Oui, bien sûr. j'aime beaucoup cette idée, en fait. Je la trouve très, très forte. Elle est due à deux psychologues, Abraham et Tobrok, qui parlent de crypte pour désigner, en fait, le fait qu'on peut avoir dans son expérience vécu quelque chose qui a été tellement difficile qu'on l'a... comme mis dans une espèce de coffre-fort avec une clé fermée, on a perdu la clé. Ça, c'est la crypte. Et ce qu'ils disent n'est pas tant cette manière dont le psychisme s'arrange pour plus que refouler et après complètement, effectivement, rendre inaccessible l'événement traumatique.
ce qu'il travaille, c'est le fait que cet événement qui est enfermé dans le coffre-fort, là, il est transmis aux générations qui suivent. Mais comme il est transmis sans mots, sans explication et sans conscience même de l'événement, il peut travailler des générations alors qu'elles n'ont aucune prise dessus. Donc c'est absolument tragique d'une certaine manière, puisqu'on peut se retrouver héritier ou héritière de quelque chose qu'on n'a pas les moyens de comprendre. Alors évidemment, on peut travailler après, etc. Il y a des solutions, on n'est pas condamné hein, à vivre avec ça, mais effectivement, c'est une notion qui s'appelle la clinique transgénérationnelle, hein, qui montre comment, d'une génération à l'autre, des choses passent hors de la conscience de ceux qui sont en relation par des relations générationnelles. C'est ça, la crypte. Donc, j'ai des histoires dans le livre de familles traversées, agies, finalement, par des événements qui sont encryptés et qu'il faut éventuellement parfois essayer d'atteindre. Hein. Et on voit comment des enfants en particulier essayent d'atteindre ce qu'ils sentent bien. Et ils sentent bien qu'il s'est passé quelque chose, mais ils ne savent absolument pas quoi dans le passé paternel.
Là, on est dans la génération où ce sont les petits-enfants ou même les arrière-petits-enfants de ceux qui ont été appelés en Algérie qui seraient en mesure de poser des questions. Mais est-ce que finalement, cette histoire, elle les intéresse encore?
Alors, je pense surtout que l'intérêt pour l'histoire n'est pas une variable linéaire du temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un désintérêt quelques années après. Par exemple, les frères, les sœurs, les épouses, ça ne les intéresse pas du tout au retour. Et puis, il peut y avoir un immense intérêt 50 années après de la part d'un petit enfant. Et puis, 10 ans après, moins d'intérêt, etc. Et cet intérêt, il n'est pas simplement lié à la qualité de la relation qu'on a nourrie avec la personne. Mais il est aussi lié, encore une fois, à ce qui est disponible socialement. Donc pourquoi les petits-enfants se sont intéressés plus que les enfants? Parce que quand même, ils s'y sont intéressés. Moi, j'ai aussi beaucoup d'interactions avec des petits-enfants. Mais parce que justement, ils ont une idée assez précise de la guerre d'Algérie qui leur a été transmise par l'école. Ils savent des choses, en fait. Et donc, tout d'un coup, ils se disent « Ah, mais en fait, ça concerne aussi mon papy. » Et là, il y a une espèce de sentiment un peu étonnant. Qui fait que ben voilà, on peut se retourner vers lui, on peut aller lui demander. Donc non, j'ai quand même l'impression que cette question intéresse la génération des petits enfants. Et après là, les spécialistes qui ont déjà travaillé sur des questions de ce type-là, sur les transmissions entre les générations pour des événements difficiles, montrent de manière assez récurrente que la parole est plus facile de la génération des grands-parents à la génération des petits enfants, et on constate la même chose pour l'Algérie en fait.
Alors, en 59, hein, écrivez-vous, une enquête avait été lancée pour mieux identifier les répercussions psychologiques et morales du conflit algérien sur la jeunesse française. Et en 1959, finalement, très peu de jeunes répondent à cette question, finalement, de savoir quelles étaient les répercussions.
En fait, c'était une enquête lancée par les mouvements de jeunesse.
Supervisée par le CNRS.
Qui avait compris, effectivement, mais qui avait compris, qui avait vécu dans leur sein en voyant leurs anciens membres revenir d'Algérie, qu'il se passait des choses là-bas qui les atteignaient beaucoup. Et donc, on avait commencé à voir apparaître un mot à l'époque qui est le mot démoralisation. En fait, ils employaient ce mot pour dire ça va pas, quoi. Il va y avoir des séquelles sur la société française puisque notre jeunesse est démoralisée. C'est-à-dire qu'elle a perdu les valeurs morales. C'était fort hein, ce que ça voulait dire à l'époque. Donc, il y avait une vraie inquiétude portée par les organisations de jeunesse, et elles sont des dizaines à se lancer dans l'enquête. Et effectivement, leurs membres ne répondent pas. Alors, on ne sait pas pourquoi. On peut juste dire l'enquête était longue, il y avait plein de questions. Bon,
peut-être plus que aussi... dans la vôtre.
Non, pas plus que dans la mienne.
Bon, il y avait moins, vous voyez.
Non, mais je, voilà. Et ils avaient autre chose à faire. Enfin, effectivement, quand ils rentrent, ils ont certainement autre chose à faire que de répondre à un questionnaire. Et puis, je pense aussi qu'ils ont autre chose à faire que de reprendre contact avec leur association de jeunesse. Parce que globalement, ils sont précisément dans un autre moment de leur vie. Et il faut être engagé, il faut être militant, il faut avoir envie de participer. Et je pense que c'est aussi le signe d'une désaffection vis-à-vis de ces formes d'encadrement de la jeunesse à ce moment-là. Et puis peut-être aussi le sujet qui fait qu'on s'y intéresse, voilà, qu'on n'a pas envie de le documenter. En même temps, ceux qui répondent, évidemment, ils sont très très peu, mais ceux qui répondent, c'est assez passionnant ce qu'ils écrivent de ce point de vue-là. Mais le fait même, moi j'analyse le questionnaire lui-même, en fait, même sans les réponses, parce que le questionnaire dit déjà ce que c'est. Ces organismes de jeunesse ont perçu, en fait, de la communauté des jeunes qui étaient à leur contact. Ça peut être les foyers ruraux, ça peut être la jeunesse étudiante. et qui est quand même autour de la violence, les sautes d'humeur, la difficulté à s'adapter, mais aussi la découverte de nouvelles valeurs, l'envie de s'engager. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont des signes qu'il s'est passé quelque chose en Algérie qui les a changés, ces jeunes.
Et si ces appelés de la guerre d'Algérie étaient les témoins gênants d'une histoire qu'on a voulu mettre sous le tapis, d'ailleurs?
Ah ben ça, c'est sûr qu'ils le sont, d'une certaine manière. Oui, oui, c'est sûr qu'ils
le sont.
C'est
pour ça qu'on n'a pas envie de parler quand on est un témoin de quelque chose, finalement.
En tout cas, il y a une difficulté à accrocher leur récit individuel, leur expérience, à un récit collectif, puisqu'il n'y a pas de récit collectif. Donc, ils sont témoins gênants, ils sont juste... À un moment, presque, ils peuvent se demander s'ils ont halluciné, s'ils ont vraiment vécu ce qu'ils ont vécu, puisque finalement, l'Algérie française n'existe plus. Les raisons pour lesquelles ils sont partis en Algérie n'ont plus aucun sens. Pour certains, ils sont même partis avec le sentiment que ça n'avait aucun sens de partir. Quand on part en 60 et que De Gaulle a déjà parlé de l'autodétermination, qu'on va risquer sa vie pendant 2 ans, alors
les derniers sont partis en 60, hein, c'est ça?
Non, les derniers sont partis en 61. Et les derniers sont partis en 62. Il y a encore des gens qui partent début 62 en Algérie et qui vont y rester parfois...
Après l'indépendance
jusqu'en 64, oui. Et la violence contre les soldats du contingent, elle est très forte en 62. Parce que l'OAS, l'organisation armée secrète, qui veut absolument rendre, comme il disait, l'Algérie aux Algériens dans l'état de 1830 et qui essaye de mettre l'Algérie à feu et à sang, vise explicitement les soldats français. Donc 62, c'est une année très dangereuse pour les soldats français, ce que personne ne comprend en France, puisque la guerre est finie. Donc il y a un décalage très fort entre leur expérience, parfois au moment même où ils la vivent, et ce qui se dit dans la France de l'époque, et puis surtout après, puisqu'en fait on n'en parle plus. Le grand récit après, c'est le nucléaire, c'est l'Europe, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment, et puis l'Algérie coloniale est renvoyée à la marine à voile. Donc c'est vraiment un passé dont il ne s'agit plus de parler. Je pense que c'est ce problème d'articulation entre l'individuel et le collectif qui explique aussi la difficulté à parler.
Bon, votre enquête est passionnante. Hein. Papa, qu'as-tu fait en Algérie? Ça restitue complètement ce qui se passait à l'époque. Enquête sur un silence familial aux éditions La Découverte. On va se quitter en chanson. C'est pas tous les dimanches qu'on écoute Serge Lama avec cette chanson justement qui raconte l'histoire de ceux qui sont partis, qui avaient été, qui ont pris le bateau pour aller faire leur service militaire en Algérie. Merci Raphaël Branche d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Très bon dimanche sur Beurre FM.
Dans ce port, nous étions des milliers de garçons. Nous n'avions pas le cœur à chanter des chansons. L'aurore était légère, il faisait presque beau. C'était la première fois que je prenais le bateau. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer, les petits soldats, au balcon séché draps et serviettes, comme en Italie. On prenait de vieux trains à banquette, on était mal assis. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie. Ce n'était pas un port à faire du mélo, et pourtant je vous jure que j'avais le cœur gros. Quand ils ont vu le quai s'éloigner, il y en a qui n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer, les petits soldats. Nos fiancés nous écrivaient des lettres avec des mots menteurs. Le soir, on grillait des cigarettes afin d'avoir moins peur. Même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie.
Un port, ce n'est qu'un port, mais dans mes souvenirs, certains soirs, malgré moi, je me vois revenir sur le pont délavé de ce bateau prison. Quand Alger m'a souri au bout de l'horizon, l'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont je ne voulais pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là que j'étais parti jouer les petits soldats. Bonjour, je raconterai l'histoire à mes petits-enfants du voyage où notre seule gloire c'était d'avoir 20 ans. L'Algérie, avec ou sans fusil, ça reste un beau pays. L'Algérie.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.